Merci. On va donc passer à la partie de débat. Je ferai quelques remarques. Moi, ce que j'ai compris, s'il fallait résumer en une phrase, j'ai dit au fond, le tourisme, c'est pas aux étrangers qu'il faut le vendre, mais c'est aux Français. Encore que le mot vente soit un peu vulgaire. Je me demande si le fait que 82 millions de touristes viennent en France n'a pas un effet anesthésiant. Si on dit aux Français, il faudrait faire un effort, dire ben, quoi encore, on est les meilleurs, on ne va pas commencer à nous casser les pieds. Autre question, on a vu tous les défauts des Français en matière de tourisme. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'étrangers qui continuent à venir? On peut quand même s'interroger, parce qu'on est vraiment mauvais, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent. Est-ce qu'en tendance, le nombre de touristes qui viennent, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui passent pour aller en Espagne, est-ce que le nombre diminue ou est-ce qu'il est stable? Et puis, il y a un point, c'est qu'il est clair que la concurrence s'organise. Quand on voyage, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit des endroits, par exemple Singapour ou Sydney et tout, où franchement, quand on vient à Paris, on se dit, c'était quand même bien Singapour. Et donc, est-ce qu'en tendance, il n'y a pas vraiment un problème? J'ai pris tout à l'heure l'exemple du Titanic, parce qu'au fond, quand on est convaincu qu'on est dans un monde qui ne peut pas changer, on ne se rend pas compte qu'il est en train de changer. Et enfin, pour la gouvernance, je ne résiste pas au plaisir de passer la parole à Julien Barnu ou à Amine Amouche pour qu'ils nous disent les rattachements du ministère du Tourisme au cours des âges.
Oui, c'est vrai, c'est effectivement, si on regarde le ministère de rattachement d'un domaine à l'image de ce que le domaine représente pour les décideurs politiques, le parcours du tourisme, d'ailleurs j'ai pu faire cette étude grâce à Jacques Augustin, ici présent, qui nous a communiqué une histoire sur le parcours du tourisme en France, et on se rend compte qu'effectivement c'est assez délirant parce que depuis les années 70, le tourisme est passé par le ministère de la Culture, commençons par le ministère de la Qualité de la Vie, le ministère du Temps Libre, le ministère de la Jeunesse et des loisirs, du commerce, de l'équipement, de l'industrie et de l'économie. Donc le tourisme est à peu près passé par tous les ministères possibles, qui peut témoigner d'une absence assez ahurissante de vision stratégique, et tout ça en 40 ans.
Pardonnez-moi, j'ajouterais que c'est toujours un vrai débat, et notamment une partie de ce débat est portée par un acteur important du tourisme, le député Jean-Michel Couve, maire honoraire de Saint-Tropez, qui lui a la faiblesse de penser que l'activité touristique est complètement horizontale et qu'il conviendrait de regrouper tous les aspects du tourisme dans un commissariat général qui devrait être attaché au Premier ministre. En faire un plus ou moins grand département ministériel rattaché à autre chose, c'est ne pas servir le tourisme.
Marc Mously, donc prospectiviste. Oui, moi j'aurais plutôt l'impression inverse, c'est-à-dire que le mieux ce serait peut-être de supprimer tout ce qui est central en matière de tourisme. Ministère de tourisme, commissariat, etc. Bon, il faut bien sûr des stratégies et pas une stratégie. On n'a pas parlé par exemple de tourisme d'affaires, alors qu'il y a des enjeux qui sont colossaux. Et ce n'est pas les gîtes ridicules de la Guadeloupe là, qui vont faire avancer le tourisme d'affaires. Je n'ai pas travaillé sur la Guadeloupe, hein. J'ai travaillé sur la Martinique, c'est exactement la même chose. C'est une catastrophe absolue. Donc, si on prend, je sais pas, trois lieux en France, hein, Paris, une région sur laquelle j'ai aussi travaillé sur le tourisme et autre chose, le centre, et puis la Guadeloupe, la Martinique, la Corse et tout ça, les stratégies sont complètement différentes. Donc, à Paris, on a un problème qui est un problème d'accueil, de qualité d'accueil, hein. Il faudrait que les Parisiens se transforment de temps en temps en touristes. Par exemple, qu'ils aillent au Louvre. Le Parisien qui aime les expositions, qu'est-ce qu'il a dans sa poche, comme moi, une carte des Amis du Louvre? Il a une carte pour Orsay, il a une carte pour... Parce que sinon, on n'y arrive pas, on peut pas entrer, quoi. Bon, le Louvre, c'est spectaculaire, enfin. Bon. J'en arrive aujourd'hui à me demander si on n'aurait pas mieux fait de laisser le ministère des Finances rue de Rivoli et construire les trucs, alors, idiotie suprême, le truc sur l'islam, là. On en rajoute encore au même endroit. On aurait mieux fait de mettre la moitié du musée du Louvre à Bercy. Hein, on aurait pu faire un superbe truc moderne. Donc, la stratégie à Paris, il faut se poser la question, je sais pas, des cafés, par exemple. Est-ce qu'on regarde un peu ce que font les autres? Regardez, par exemple, un truc, mais qui est stupéfiant. Le succès et le développement de Starbucks à Paris. Starbucks à Paris, non mais, on n'en tire pas de conclusion de ça? Starbucks, c'est pas donné? Moi, je hurle quand j'entends parler de compétitivité prix. Mais on s'en fout de la compétitivité prix. Il faut faire payer cher. Il faut qu'on ait moins de touristes, mais qu'ils laissent beaucoup plus d'argent. L'un des pays où on laisse le plus, où les pays laissent le plus d'argent, enfin, vous me direz, monsieur de l'OCDE, si vous êtes d'accord avec moi, en Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est au premier rang en matière de recettes par touriste devant l'Espagne et bien sûr devant la France. Alors, pourquoi est-ce que l'Allemagne, qui a moins d'atouts que nous, réussit à tirer plus d'argent de ses touristes? Quand vous regardez la région centre, hein, pour, je ne vais pas m'attarder sur Paris, je pourrais en parler pendant toute la soirée, la région centre, son problème, ce n'est pas l'accueil, c'est la qualité. Si, c'est une autre forme d'accueil, c'est la qualité déjà. Hein. Un 3 étoiles quelque part du côté de Chinon, c'est rien, vous prenez tous les risques. La région centre, qui est une région qui n'existe pas, veut avoir une stratégie pour le tourisme en région centre, alors que ça n'a pas de sens. Il faut du tourisme en Berry pour Bourges, il faut du tourisme en Eure-et-Loire pour Chartres, etc. Mais l'image de marque de la région n'a aucun sens. Les sites sont pour la plupart fermés 8 mois par an, quand ce n'est pas 9 mois par an ou 9 mois et demi par an. Bon, donc il faut voir comment on ouvre les sites. Donc la stratégie de la région centre, ce n'est pas la stratégie de Paris. Pour la Martinique, la Guadeloupe, etc., ce n'est même pas la peine. Hein. On laisse tomber et puis c'est tout, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Là. Je ne suis pas d'accord avec votre première expression, le mythe du laquais. Pourquoi aller chercher le laquais? C'est le mythe de l'esclave, du serf. Service, quand même, l'origine du mot service, c'est bien ça. Donc, pourquoi aller chercher le mot laquais? C'est le mythe du cerf. Et quand vous travaillez en Martinique, vous entendez parler hein, de l'esclavage du service. Pourquoi avoir donc une espèce de stratégie globale, alors qu'on n'a même pas d'ailleurs, alors qu'on devrait avoir une stratégie par région? Et certaines régions, je pense à la Bretagne, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le nation branding, hein, sur l'image de marque de la région, ont bien compris ça. Ils ont travaillé sur leur image de marque.
Ce qui nous est apparu, c'est que effectivement, je vais m'appuyer notamment sur l'exemple de l'Espagne pour répondre. Il y a beaucoup de points dans votre intervention, mais il y a en particulier donc celui de la stratégie nationale versus stratégie régionale. Et en fait, il y a aussi des problèmes régionaux et des problèmes nationaux. Et notre avis, c'est que le principal frein au développement du tourisme, donc cette non-sensibilisation des Français à la question du tourisme, qui est pour moi une question nationale, que donc l'Espagne en particulier, donc même dans un régime autoritaire, donc on pourrait penser qu'il pourrait imposer n'importe quelle stratégie sans problème, sans consulter la population. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Même dans un régime autoritaire, il a fallu passer par des phases de communication nationale, vraiment pour tout le peuple espagnol. C'est ce que disait le ministre de l'Information et du Tourisme de l'époque. Il faut que chaque Espagnol ait la même idée en tête, qui est que leur vocation en tant que peuple, c'est le tourisme. Donc ça, c'est un problème national, et c'est pour ça qu'une campagne d'échelle nationale, comme celles qui sont là, on peut y remédier, mais ça n'a pas empêché l'Espagne de donner un énorme pouvoir aux régions. Ça n'a pas empêché l'Espagne d'adapter ensuite les stratégies touristiques au niveau de la région. Et le budget, par exemple, de l'Andalousie, le budget touristique de l'Andalousie, par exemple, est supérieur à celui de la France. Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire d'avoir une stratégie de sensibilisation nationale, globale, et des régions indépendantes dans le développement après de leur stratégie.
Un mot en plus pour compléter ce que disait Julien. En France, la délégation du tourisme est faite par l'État pour les régions. Les régions se sont en partie sensibilisées pour le tourisme, pour certaines en tout cas, et mènent une stratégie. Là où il faut une conscience nationale, c'est dans la fédération. Donc, je rejoins ce que disait Laurent Cache tout à l'heure et ce que dit Julien maintenant. C'est une conscience touristique nationale pour aller dans le même sens. Aujourd'hui, typiquement, la Normandie a un logo, la Picardie a un logo, toutes les régions de France ont un logo. On n'a pas de rayonnement à l'étranger. Un étranger ne comprend pas ce qu'il peut y avoir en France. Il voit toute une multitude de logos, il ne sait pas du tout où aller.
Mais alors pourquoi il vient?
Visiblement, c'est Paris. Après, il y a des régions qui peuvent surfer sur certaines thématiques liées à Paris, notamment leur proximité. La Basse-Normandie et la Haute-Normandie sont relativement proches de Paris, puis ont la mer. Donc, elles peuvent surfer là-dessus. Il faut partir d'une conscience touristique nationale, au même titre que celle qu'a menée l'Espagne, dans un seul sens, avec un objectif commun. Après ça, effectivement, une délégation à l'échelle régionale peut être menée. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on puisse le faire en amont.
Mais aujourd'hui, il y a une problématique qui est différente. Hein. C'est pour ça que je plaisantais sur les histoires de gîtes accueillants, etc. Aujourd'hui, le tourisme, qu'on le veuille ou non, c'est une industrie de service. Et ce n'est pas seulement faire des guiliguillis aux gens qui viennent nous voir. C'est offrir des prestations qui soient des prestations fiables. Et je regrette de dire qu'aujourd'hui, les seules prestations fiables qu'on ait, c'est dans les grandes chaînes. Le reste, c'est la roulette russe. C'est offrir des prestations qui soient visibles. Regardez un peu la signalétique à Paris et ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'à Paris, hein, partout. Hein. C'est à se tordre de rire ou à pleurer. Ensuite, c'est peut-être avoir des systèmes de prix qui ne soient pas stupides. Chez Starbucks, si vous prenez un tall mocha café, c'est toujours le même prix. À Paris, ça dépend si vous vous asseyez à la terrasse ou si vous restez au comptoir, par exemple. Mais des trucs comme ça, mais c'est aberrant.
Tout à fait.
Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on ne fait rien contre ça.
Mais justement, c'est pour cette raison que ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a toutes ces mesures, mais effectivement, vous n'êtes pas le seul à les voir, et elles sont dans beaucoup de rapports. La question qu'on s'est posée, donc, d'accord, il faut faire toutes ces mesures. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas alors qu'on sait qu'il faut les faire? La réponse, c'est parce que les décideurs politiques ne s'occupent pas de tourisme. La question, c'est pourquoi ? Et la réponse, c'est parce que l'opinion publique ne se sent pas concernée. Et c'est comme ça qu'en fait, même si toutes ces mesures ont l'air simples et faisables et applicables concrètement, on revient toujours à cette idée que si l'opinion publique n'est pas impliquée, les décideurs politiques ne peuvent pas vraiment s'en occuper et du coup, ben, on ne les fait pas.
Monsieur Dupérasse.
Supprimer tout ce qui est central au niveau du tourisme, je ne suis pas d'accord. Et sur la simple raison, c'est que les pays qui l'ont fait ont tous fait marche arrière. On ne va pas rentrer dans un long débat, mais bon, je pense que l'idée d'avoir une conscience nationale du tourisme, une vision commune de vers où on va, et quelqu'un qui pilote un peu le développement du tourisme sans pour autant faire tout sur le tourisme. Et on a un grand nombre de pays où le tourisme est une compétence régionale, une compétence des États pour les pays fédéraux, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, cette idée d'avoir le tourisme au niveau interministériel, etc., c'est une idée que quelques pays ont déjà repris avec plus ou moins de succès, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et rapidement, sur la compétitivité prix, l'idée que je défendais, ce n'est pas du tout d'aller de tirer les prix vers le bas, mais c'est bien entendu de tirer les prix vers le haut afin d'augmenter la valeur ajoutée du tourisme. De toute façon, c'est la seule porte de sortie pour un pays comme la France. Et c'est donc là qu'on doit se battre, et donc sur la qualité des services et l'innovation.
Juste, je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Barnu. Je trouve que dans leur étude, il y a quelque chose de très pertinent, c'est le parallèle entre la communication de la sécurité routière et la communication qui pourrait être celle autour du tourisme. Pourquoi ? Il y a quelques années, dans une carrière un peu compliquée, j'ai eu en charge la communication de la sécurité routière. Et à ce moment-là, on avait le problème aussi, qui est le même que celui d'aujourd'hui pour le tourisme, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas voir les problèmes. On ne voulait pas voir. On me disait, il faut faire une communication soft, et dès que la communication vient un peu dure telle qu'elle est aujourd'hui, alors là, non, on a un rejet de la population, etc. Donc il faut absolument pas faire une communication qui soit rejetée par la population. Il faut les caresser dans le sens du poil. Et c'est pourtant une communication de plus en plus violente, à l'instar de ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons, où on a commencé à montrer que si on sortait de chez des amis un peu éméchés au coin de la rue, on pouvait se tuer et on voyait les amis prendre connaissance du décès de leurs proches et on voyait l'accident avec du sang, etc. Ça a commencé à faire réfléchir les gens et on est quand même passé de 17 000 morts dans les années 70 à 3 000 aujourd'hui. Donc une communication qui ne soit pas une communication tranquille, qui est celle du politique aujourd'hui qui dit ah ben, le tourisme ça marche tout seul, nous en occupons pas, on ne va pas s'investir là-dessus, c'est dégradant, etc. Mais je voulais dire la pertinence de l'exemple qu'il y a entre la communication de la sécurité routière et la communication dont devrait bénéficier le tourisme. Merci.
Monsieur. Oui, bonsoir, Alexis Koumetat. Je voudrais remercier nos étudiants pour le travail qu'ils ont fait parce que ils font partie des esprits les plus brillants de notre République, ce sont des ingénieurs des mines, et ils ne sont pas tombés dans le panneau habituel qui aurait consisté à proposer une nouvelle stratégie encore plus intelligente que les autres. Ils ne travaillent pas sur la stratégie, ils travaillent sur les pratiques. Et c'est là où je trouve qu'il y a une rupture fondamentale, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que les touristes, ils votent avec leurs pieds, ils regardent sur Internet, ils comparent les prix, ils bougent. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y a une stratégie territoriale intelligente qu'ils vont aller dans un territoire, c'est parce qu'ils vont être capables de consommer ce que les gens, ce que les acteurs du privé, les tout-petits, les modestes, vont pouvoir leur proposer. Et à ce titre-là, quand vous disiez qu'on pourrait travailler dans les écoles à promouvoir le tourisme, je suis d'accord. Mais le risque, c'est que lorsque, en même temps, vous développez des idéologies ou des idées, enfin, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je veux dire, mais qui vise à emmener 80% d'une classe d'âge au bac ou 50% d'une classe d'âge à la licence, on va faire des experts du tourisme qui vont inévitablement aller travailler dans les collectivités territoriales et qui, et c'est ce que je constate, n'ont finalement de sens que de s'affronter les uns les autres pour justifier leur poste entre l'Office du tourisme, le comité départemental du tourisme, le comité régional du tourisme et même la direction régionale du tourisme, parce que comme on s'entend pas avec le CRT, au conseil régional, on crée une direction régionale du tourisme. Donc là, ça commence un peu à bien faire. Donc moi, je trouve que leur idée, elle est absolument formidable parce que le sujet, il est là. Il n'est pas de créer des gouvernances, il n'est pas créer des politiques actives, c'est de changer les pratiques. Et messieurs, bravo et j'espère que la qualité de votre esprit vous permettra de promouvoir cette idée bien haut.
Yves Darcourt, Club Paysage et Prospective. Vous avez posé la question comment aller plus loin. Alors, on croit qu'on peut citer ici la démarche qui a été lancée il y a 3 ans dans le Val-de-Loire, sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce programme s'adresse aux habitants du Val-de-Loire. Il est centré justement sur les motivations à accueillir, avec des ateliers sur la découverte du pays, de ses habitants, de son histoire et de ses paysages vécus. Il s'agit d'aller au-delà des grands sites balisés et vers le pays profond. Alors, on est là chez nous. On a là chez nous un prototype très intéressant, un prototype gouverné. Ça ne s'est pas fait simplement par l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est un prototype à grande échelle. Alors, reste maintenant à passer du prototype au déploiement. Mais là, on est dans une autre grande problématique qui caractérise les mentalités françaises.
Monsieur Dupré-Latour.
Bonsoir. Il y a à peu près 10 ans, j'étais dans la situation de Julien et d'Amine, c'est-à-dire ingénieur des mines. Je suis nommé à l'Élysée conseiller de Jacques Chirac et j'ai dans mes portefeuilles le tourisme parmi d'autres sujets comme l'écologie, etc. Et j'avais la sécurité routière aussi. Alors je veux dire tout de suite que je suis complètement d'accord avec la conclusion et je rejoins ce qu'avait dit monsieur, c'est en proposant une campagne de communication tournée vers les Français et pas vers la promotion de la France, on touche aux racines du mal dont on discute aujourd'hui. Par contre, malheureusement, je ne suis pas tout à fait d'accord ni avec l'analyse, pas du tout avec le parallèle qui est fait avec la sécurité routière. C'est bien de toujours le citer parce que c'est une réussite, mais ce n'est pas parce que cette réussite-là que ça veut dire que c'est une recette qu'on peut appliquer comme ça. Et je suis désolé, Julien, mais si, le côté répressif était très important dans la réussite. Il n'y avait pas que de la campagne de communication, pas que les campagnes de communication dont le ton a changé à ce moment-là, puisque je regardais les campagnes anglo-saxonnes. Et il ne faut pas faire que non plus du sang et des cadavres. Il faut aussi jouer sur l'humour. Il faut jouer sur plusieurs registres. Une campagne de communication sur le long terme, c'est plusieurs registres. Je voudrais vous faire un témoignage. Je suis nommé donc, j'ai en charge le tourisme. Je n'y connais rien et je me passionne pour le sujet. Qui vient me voir? Eh bien, personne. Vous l'avez dit, monsieur Guège, les professionnels ne sont pas organisés et personne vient me voir pendant 7 ans.
Tu avais fait savoir qu'on pouvait venir te voir.
Oui, oui, ça, je voyais plein de gens sur d'autres sujets. Mais, premièrement, les gens que j'ai vus, c'est le PDG d'Accor pour parler justement des Antilles et de dire qu'il allait fermer ses hôtels et donc le plan qualité. Et on retrouve complètement la logique que vous aviez indiquée, la logique du laquais, dans cette perspective-là. Mais, l'État n'était pas organisé. Donc, il a fallu réorganiser, structurer l'État, éparpiller. Donc, l'expertise a dû être ressoudée, restructurée, etc. Certaines parties de l'État ou autour était malade. Je pense à l'Agence nationale des chèques vacances. Et puis, il y a le millefeuille administratif. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a besoin d'une expertise, d'une stratégie d'État, au-delà des stratégies des différentes régions, mais elle n'était pas du tout organisée. Deuxièmement, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, la France, première destination touristique mondiale. Ouais. On sait tous que ces statistiques sont faussées par les gens qui traversent le pays. Mais il y a une espèce de sentiment général qui est... c'est bon, il n'y a rien à faire, ça roule tout seul. Donc il faut déjà convaincre la légitimité d'une action et que ce n'est pas qu'une affaire d'entreprise privée, mais il y a bien une action d'État à mener et qu'elle a une légitimité. Et ça, ce n'est pas forcément acquis à tout le monde. Ensuite, troisièmement, on l'a vu dans la discussion, on a un modèle, c'est le touriste étranger qui vient à Paris. Et Paris a ses propres difficultés, à commencer par l'accueil à l'aéroport de Roissy et la liaison entre Roissy et Paris. Je pense qu'en 10 ans, ça n'a pas bougé. C'est un des plus mauvais aéroports en termes d'usage. Il est très beau architecturalement, mais en termes d'usage, il est déplorable. Il suffit de se voyager un petit peu dans le monde pour s'apercevoir que partout ailleurs, c'est plus facile et puis on rejoint le centre-ville. Donc là, il y a une problématique spécifique à Paris. Mais le touriste, ce n'est pas que un touriste étranger qui vient à Paris. Le tourisme, c'est d'abord des Français qui se déplacent en France. C'est le tourisme des 4 saisons. C'est le tourisme à la montagne, à la mer, au littoral. Le problème en France, c'est qu'il est concentré sur Paris, qui a une vraie force attractive, par ses musées, ses monuments et son histoire. Et puis, il y a la Côte d'Azur, et puis il y a le reste de la France. Donc, une stratégie nationale, c'est aussi une stratégie sur l'ensemble du territoire, en appui des stratégies qui peuvent être dans chacune des régions. Et ensuite, on avait vu des évolutions qu'on connaît bien, c'est-à-dire que ce n'est plus forcément des longs séjours, mais des séjours plus courts, avec les RTT, l'arrivée, des week-ends prolongés, etc. Donc, c'est très complexe, effectivement. Et vous avez bien raison de dire, la première chose à faire, ce n'est pas de faire un énième plan, mais c'est bien de travailler au fond. Mais je voudrais vous témoigner une chose, c'est que ce n'est pas vrai de dire que le politique ne s'intéresse pas au tourisme. Ça n'est pas vrai. Alors évidemment, bon, il faut faire un peu d'histoire. En 2002, c'était présent. Alors après, il n'y a pas forcément d'énormes débats. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est clivant dans le tourisme? Pour qu'il y ait débat dans un sujet, si on choisit à droite, à gauche, etc., il faudrait un certain clivage. Il n'y a pas forcément de grand clivage sur ce sujet-là. Alors, il peut y avoir des approches plus ou moins, je dirais, libérales, en disant qu'il faut, c'est une question d'entreprise, d'investissement, etc. Puis une approche un peu plus planificatrice, qui est de dire, oui, mais non, mais il faut organiser, il faut augmenter le nombre de gens qui s'occupent de ce sujet, donc éventuellement. Mais surtout, il n'y a pas de proposition. Le code du tourisme, il n'existe que depuis 2006. Avant, il n'existait pas. Donc, il a fallu 3 ans, je me souviens, pour dire, bah, tiens, première chose à faire, c'est de donner une consistance au motorisme et à l'ensemble de ces petites réglementations éparses qui concernent les hôtels, les restaurants, tout, etc. Le code du tourisme, il est très récent. Il y a eu une loi ensuite en 2009, je crois. Donc, voilà, il y a une construction progressive qui peut se mener. Donc, mon message, c'est, un, les professionnels doivent s'organiser et être un vrai lobby. Allez déranger le conseiller à l'Elysée qui s'occupe aujourd'hui du tourisme. Je ne sais pas qui c'est, mais allez le voir. Il est tout seul. Comment voulez-vous qu'il invente? Comment voulez-vous qu'un conseiller invente tout seul? On peut avoir quelques idées comme ça, mais c'est les professionnels qui doivent venir. Il faut traiter absolument le sujet de Paris, mais c'est accès à Paris, c'est-à-dire les gens qui viennent à Paris, ils ont une image, ils viennent, ils sont extrêmement déçus par l'accueil qui commence à l'aéroport, la fouille, etc. Et vous avez tout à fait raison, il faudrait leur donner la parole, parce que finalement, au lieu de regarder le nombril, il faudrait plutôt demander aux gens ce qu'ils pensent et puis agir en fonction de cela. Et puis penser au reste de la France, je suis désolé, c'est pas vrai que dans le reste de la France, tout le monde a le sentiment du service, on est très bien accueillis. Tout le monde n'est pas rétif aux touristes. Il y a des zones du pays qui vivent de cela. Donc, ne faisons pas trop de parisionocentrisme, mais pas au sens de Paris, mais plutôt au sens de l'administration ou des penseurs. Pensons à l'ensemble et ne pensons pas qu'au tourisme non plus étranger, mais aussi au tourisme interne.
Non, mais attends, dans le reste de la France, il y a quand même un problème d'équipement hôtelier, ça a été évoqué. Comment se fait-il que l'investissement soit aussi en retard? Alors, des gens disent que c'est à cause de l'ISF, parce que pour investir en France, il faut être un peu fou, mais est-ce qu'il y a seulement ça comme raison? Quand on circule dans beaucoup de pays, quand on est en France, ça fait un choc quand même.
Ma vision, elle est datée. Hein, donc mais je me souviens que j'étais étonné par cette vision très équipement, si vous me permettez, du tourisme. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de problèmes d'équipement. Moi, je l'ai plutôt vu du côté du service, de l'accueil, etc. Je ne dis pas que l'équipement, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que sans arrêt dire il faut faire des travaux dans les hôtels, on a un peu l'impression que ce n'est pas tout à fait ça. La question, c'est, mais c'est quoi la demande? On sait bien que le tourisme anglo-saxon, notamment germanique, c'est une certaine forme de tourisme. Et la dernière idée que je voulais dire, c'est qu'on est tous déformés, c'est comme la sécurité routière. La sécurité routière, on est tous automobilistes. Donc on peut avoir un risque, c'est d'aborder le sujet de par sa propre expérience. Nous sommes tous des touristes, on a été touristes. Il y a un modèle qui s'appelle le routard, le guide du routard. Tous les Français vont à l'étranger avec le guide du routard. Et je pense que là aussi, il faut essayer de se sortir de sa propre expérience du tourisme pour essayer plutôt de se décentrer vers le client. Qu'est-ce qu'il veut le client? Un client allemand, il ne veut pas la même chose qu'un client chinois, qu'un client japonais ou qu'un client français. Et donc, c'est là que si on pouvait être orienté client, et je préfère que du coup, on en déduise que finalement, il faut améliorer les hôtels de telle ou telle manière, plutôt que d'avoir une espèce de demande conventionnelle qui date depuis 30 ans, je crois, qui est demandée des crédits d'impôt, des ceci, etc., pour améliorer les hôtels. Je pense que c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette que d'aborder c'est par sûr. Le côté de l'équipement.